La voix de Rama. Jimmy ne fut frappé de l'ampleur de son entreprise que lorsqu'il atteignit la côte de la mer cylindrique. Jusque-là, il avait survolé un terrain connu. Sauf en cas de désastreux accidents de voilure, il pouvait toujours se poser et regagner la base par ses propres moyens en quelques heures. Cette possibilité lui était désormais ôtée. S'il s'abattait sur la mer, il était condamné à la plus sinistre des noyades dans ses eaux empoisonnées. Et même s'il atterrissait sans dommage sur le continent austral, son sauvetage ne serait peut-être pas envisageable avant que l'Endeavor ne s'arrachât de l'orbite tangente au soleil de Rama. Il avait également la conscience claire que les désastres les plus prévisibles étaient aussi les plus improbables. La contrée totalement inconnue qu'il survolait pouvait lui réserver un nombre incalculable de surprises. Et si des créatures volantes venaient s'opposer à son intrusion, il se voyait mal dans un combat l'opposant à des volatiles, quels qu'ils fussent, plus gros que des pigeons. Quelques coups de bec bien placés suffiraient à anéantir la portance de la libellule. Mais voilà, sans aléa, pas d'exploit, donc pas d'aventure. Ceux qui auraient volontiers échangé leur place contre la sienne étaient légion. Il allait non seulement là où personne n'avait jamais été, mais aussi là où personne n'irait plus jamais. Il serait le premier et le dernier humain de l'histoire à visiter les régions australes de Rama. Il pourrait toujours se raccrocher à cette pensée quand il sentirait la peur s'insinuer en lui. Il s'était peu à peu accoutumé à flotter dans le vide d'un monde qui se refermait sur lui. Du fait qu'il s'était écarté de 2 kilomètres de l'axe, il avait acquis une notion précise du haut et du bas. Le sol n'était que 6 kilomètres plus bas, mais la voûte du ciel le diminuait de 10 kilomètres. La ville de Londres était suspendue près du zénith, tandis que New York était sur son chemin, droit devant. « Libellule !» lui indiqua la base du moyeu. « Vous êtes un peu trop bas, à 2 200 mètres de l'axe. » « Merci, » répondit-il. « Je vais remonter. Vous me direz quand je serai revenu à 2000. » Il aurait donc à surveiller son altitude. La tendance naturelle était d'en perdre et il n'avait pas d'instrument qui le renseignasse exactement sur sa position. S'il s'éloignait trop de la pesanteur nulle de l'axe, il lui serait peut-être impossible de la regagner. La marge d'erreur était heureusement large et sur le moyeu, il y avait toujours derrière un télescope un œil qui veillait sur lui. Pédalant à la vitesse constante de 20 km à l'heure, il avait bien entamé la traversée de la mer. Dans 5 minutes, il serait au-dessus de New York, et déjà l'île lui apparaissait comme une sorte de bateau condamné à faire sans fin le tour de la mer cylindrique. Arrivé à New York, il décrivit au-dessus d'elle une large boucle qu'il interrompit plusieurs fois pour que sa petite caméra de télévision pût retransmettre des images stables et exemptes de vibrations. La vue plongeante sur les bâtiments, tours, usines ou centrales, peu importe, était fascinante, mais totalement incompréhensible. Il n'apprendrait rien à contempler la complexité, si longtemps que ce fût. La caméra enregistrerait plus de détails qu'il n'en appréhendrait jamais, et un jour, dans des années peut-être, un chercheur y trouverait la clé des secrets de Rama. Ayant quitté New York, il ne mit qu'un quart d'heure à traverser l'autre bras de mer. Il avait, sans s'en apercevoir, volé plus vite au-dessus de l'eau. Mais, une fois passé la côte sud, il relâcha inconsciemment son effort, et sa vitesse diminua de plusieurs kilomètres à l'heure. Il était peut-être en territoire complètement étranger, mais au moins, il survolait la terre ferme. Dès qu'il eut franchi la grande falaise qui limitait au sud la mer, il fit enregistrer à la caméra un panoramique de 360 degrés perpendiculaire à l'axe du monde. « Joli !» lui lança la base du moyeu. « Voilà qui va faire des heureux chez les cartographes. Comment vous sentez-vous ? » « Bien, un peu de fatigue, mais pas plus que prévu. Quelle est ma distance au pôle ?» 15,6 kilomètres. Prévenez-moi quand j'en serai à 10, je ferai une halte. Veillez surtout à ce que je ne redescende pas. Je remonterai quand je n'aurai plus que 5 kilomètres à faire. 20 minutes plus tard, le monde se resserra autour de lui. Arrivé à l'extrémité de la section cylindrique, il pénétrait dans le dôme du pôle sud. Depuis l'autre extrémité de Rama, il l'avait étudié pendant des heures au télescope et avait appris par cœur sa géographie. Mais tout cela ne l'avait guère préparé au spectacle qui l'entourait de toutes parts. Le pôle sud différait du pôle nord, en tout ou presque. Ici, pas de triple escalier, pas de succession de minces plateaux concentriques, pas de glissade vertigineusement courbe d'un moyeu à une plaine, mais un immense pic central qui s'allongeait le long de l'axe sur plus de 5 kilomètres. 6 autres pics, moitié moins grands, l'entouraient, également espacés autour de sa base. L'ensemble ressemblait à un groupe de stalactites remarquablement symétriques tombant du plafond d'une caverne, ou bien d'un point de vue inverse, aux flèches de quelques temples cambodgiens s'élevant du fond d'un cratère. Reliant ces mêmes tours effilées dont il s'écartait par une courbe plongeante pour aller finir dans la plaine cylindrique, des arcs-boutants paraissaient assez massifs pour soutenir le poids d'un monde. Et telle était peut-être leur fonction. S'ils étaient véritablement les éléments de quelque unité propulsive inconnue, comme certains l'avaient avancé. Le lieutenant Pack manœuvra prudemment en direction du pic central et cessa de pédaler alors qu'il était distant d'une 100 mètres encore, laissant la libellule consommer son élan. Il vérifia le taux de radiation et ne détecta que le très faible bruit de fond énergétique propre à Rama. Mais peut-être les forces qui s'exerçaient ici échappaient-elles à la sensibilité des instruments humains. Encore un risque inévitable.
« Que voyez-vous ? » demanda une voix anxieuse depuis le moyeu.
« La corne de la licorne en personne. Elle est absolument lisse, sans la moindre marque ou aspérité. Rien. Et la pointe est si aiguë qu'elle pourrait servir d'aiguille. Je ne suis pas très assuré de m'en approcher. »
Il ne plaisantait pas vraiment. Qu'un objet aussi massif s'effilât avec cette absolue précision géométrique semblait difficile à admettre. Jimmy, qui avait vu des collections d'insectes au corps transpercé d'une aiguille, n'avait aucune envie de voir sa libellule subir le même sort. Il pédala doucement en avant, jusqu'à ce que le diamètre du pic qui allait s'évasant eût atteint plusieurs mètres et stoppa de nouveau. Ayant ouvert un petit coffre, il en sortit, non sans précaution, une sphère à peine plus grosse qu'une balle de baseball qu'il lança en direction du pic. En s'éloignant, la balle laissait déployer derrière elle un fil à peine visible. La balle ventouse frappa doucement la surface courbe et ne rebondit pas. Il éprouva la solidité du fil d'abord par une petite secousse, puis en tirant franchement. Comme un pêcheur ramenant sa prise, il hala la libellule vers l'extrémité de ce qu'il avait fort justement baptisé la corne de licorne, jusqu'à ce qu'il pût toucher cette dernière de la main.
« Je suppose que c'est ça, marquer un essai », annonça-t-il au moyeu. Au toucher, cela ressemble à du verre très glissant et légèrement chaud. La balle ventouse a bien fonctionné. Je vais essayer le micro. Voyons si la semelle adhésive tient toujours aussi bien. Je branche les câbles. Vous recevez quelque chose ?
Pendant un long moment, le moyeu resta silencieux. Puis de la basse parvint une voix dégoûtée.
« Rien, toujours rien, sauf les craquements thermiques. Vous pouvez frapper la corne avec un objet métallique ? Au moins on saura si elle est creuse. »
« Ok. Et maintenant ?»«
Nous aimerions que vous longiez le pic et que tous les 500 mètres vous fassiez un tour d'horizon complet pour déceler quoi que ce soit d'anormal. Une fois que vous serez sûr de l'absence de danger, vous pourrez vous diriger vers l'une des petites cornes. Mais seulement si vous êtes certain de pouvoir regagner sans encombre la zone de pesanteur nulle. À 3 kilomètres de l'axe, la pesanteur est sensiblement la même que sur la Lune. Et c'est pour celle-là que la libellule a été conçue. N'aurait qu'à pédaler plus fort.
Jimmy, ici le capitaine.
Je préfère revenir sur la consigne.
D'après vos prises de vue, les petits pics sont exactement pareils aux grands. Détaillez-les du mieux que vous pourrez au zoom. Je ne veux pas que vous quittiez la région de faible pesanteur, à moins que vous ne voyiez quelque chose d'apparemment important. À ce moment-là, nous en discuterons.
« Ok, capitaine !»
dit Jimmy. Et il y avait peut-être un soupçon de soulagement dans sa voix.
« Je ne m'éloignerai pas de la corne de licorne. Allez, j'y retourne !»
Il eut l'impression de piquer droit dans une étroite vallée encaissée, dans un groupe de montagnes incroyablement fines et élevées. La corne le dominait maintenant d'un bon kilomètre, et les six pointes des petites cornes s'avançaient depuis le lointain. L'intrication d'arc-boutants et de contreforts qui entouraient leur base se rapprochait rapidement. Jimmy se demanda s'il pourrait se poser sans dommage au milieu de ces architectures cyclopéennes. Se poser sur la grande corne était désormais impossible, car sur ces pentes qui s'évasaient toujours, la pesanteur était maintenant trop forte pour que la faible puissance d'une balle ventouse pût la neutraliser. À mesure qu'il approchait du pôle sud, il se sentait toujours plus comme un moineau voltant sous les voûtes d'une gigantesque cathédrale, bien qu'aucune cathédrale n'eût jamais égalé en gigantisme le centième de ce qu'il avait devant les yeux. Il se demanda si, en fait, ce n'était pas un sanctuaire, un temple ou quelque chose d'analogue, mais écarta bientôt cette idée. Toute forme d'expression artistique était absente de Rama. Tout y était purement fonctionnel. Peut-être les Raméens se sentaient-ils en possession des ultimes secrets de l'univers et par là délivrés des passions et des aspirations qui menaient l'humanité. C'était une pensée glaçante, très étrangère à la philosophie plutôt superficielle de Jimmy. Il ressentit vivement le besoin de reprendre contact avec ses lointains compagnons. Il leur indiqua donc sa position.
Répétez, libellule, répondit la base du moyeu. Nous vous recevons mal, la transmission est mauvaise. Je répète, je suis près de la base de la petite corne numéro 6, et j'accoste à l'aide de la balle ventouse. Partiellement reçu, vous m'entendez?
Oui, parfaitement.
Je répète, parfaitement. Comptez.
1, 2, 3, 4.
J'en ai reçu une partie. Envoyez la balise pendant 15 secondes et recommencez à parler.
Voilà.
Jimmy alluma la balise et maîtrise à basse tension, qui le ferait repérer en n'importe quel point de Rama, et compta les secondes. Au moment de reprendre la communication, il demanda plaintivement.
« Que se passe-t-il? Vous m'entendez maintenant ?»
Vraisemblablement, non. Car l'opérateur du moyeu lui demanda alors 15 secondes d'image télévisée. Il lui fallut répéter 2 fois la question avant que ne passe la communication.
Content de vous entendre correctement, Jimmy. Mais ce qui se passe de votre côté est très étrange. Écoutez.
La radio lui renvoya le sifflement familier de sa propre balise. Tout était normal, mais une extravagante distorsion s'y mêla bientôt. Le sifflement de 1000 cycles par seconde fut modulé par le vrombissement d'une pulsation grave si basse qu'elle se trouvait presque en deçà du seuil auditif. C'était une sorte de basse profonde et frémissante dont chaque vibration pouvait être perçue isolément. Et cette modulation était elle-même modulée. Elle montait et descendait régulièrement selon une période de 5 secondes environ. Jimmy ne pensa pas un instant que sa radio pouvait être détraquée. Non. Cela venait de l'extérieur. Quant à la nature et la signification du phénomène, cela dépassait son imagination. La base du moyeu n'était guère plus avancée, mais au moins, elle avait sa théorie.
À notre avis, vous vous trouvez dans un champ d'une intensité considérable, vraisemblablement magnétique, dont la fréquence est d'une 10aine de cycles. Il est peut-être assez fort pour être dangereux. Je vous conseille de partir immédiatement. Il se peut que ce soit purement local. Allumez de nouveau votre balise, nous allons vous la retransmettre. Ainsi vous saurez quand vous serez débarrassé de l'interférence.
D'une secousse, Jimmy libéra promptement la balle ventouse et laissa là sa tentative d'accoster. Il fit décrire à la libellule un vaste cercle, tout en écoutant le son qui chevrotait dans ses écouteurs. Après quelques mètres seulement de vol, il eut la certitude que son intensité déclinait rapidement, ce qui confirmait l'étroite localisation avancée par le moyeu. Il fit halte lorsqu'il eut atteint la limite d'audibilité du son qui n'était plus qu'une faible pulsation enfouie dans son cerveau. Un sauvage n'aurait pas écouté autrement, du fond de son ignorance terrorisée, le grave bourdonnement d'une centrale électrique géante. Et peut-être même, ce sauvage aurait-il deviné que ce son n'était qu'un mince flux parasitaire perdu par de colossales énergies parfaitement maîtrisées, mais attendant leur heure. Quelle que fût la signification de ce bruit, Jimmy était content d'en être débarrassé. L'architecture écrasante du pôle sud n'était pas propice à l'écoute solitaire de la voix de Rama.